Ce dimanche et le dimanche prochain, j'aimerais vous parler de cette prière de Jésus. C'est la nuit avant sa mort. Il sait qu'il s'en va, il sait qu'il va mourir sur la croix. Il sait pourquoi. Et il a passé la soirée autour du repas de la Pâque, riche et juif, avec ses disciples. Maintenant, il tourne vers son Père et il prie. Cette prière, c'est un privilège extraordinaire pour nous de l'avoir. Parce que le Christ prie d'un cœur rempli d'amour, rempli cette émotion de voir le calvaire devant lui et d'avoir une dernière fois de parler au Père pour le bien de ses bien-aimés disciples. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous quand il prie? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous ne savons pas, en dehors de cette prière, beaucoup de ce que Jésus a prié. On voit très peu de cette prière dans les évangiles. Mais ici, il ouvre son cœur et nous avons tout. Donc c'est très important pour nous. Si vous regardez dans ce passage, au verset 13, Jésus dit une chose intéressante. Il dit, « Et maintenant je vais à toi, il parle au Père, et je parle ainsi dans le monde, c'est-à-dire je prie cette prière avant de quitter, j'aurais pu te dire ces choses une fois que j'arrive auprès de toi, mais je ne vais pas le dire là, je vais dire pendant que je suis encore dans le monde, je vais à toi, mais je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. C'est-à-dire, je prie à toi, mais je prie maintenant parce que je veux qu'ils sachent ce que je prie. » Les disciples sont dans la même chambre. Ils sont auprès de Jésus. Et il veut que les disciples soient remplis de joie de savoir que le cœur du Seigneur est tellement attaché à eux. Et ça veut dire vous. Ok. Nous n'allons pas essayer de voir tous les détails. Et nous allons voir que deux choses ce matin, parce que Jésus prie quatre requêtes. Il prie trois requêtes pour le maintenant de ses disciples et une requête pour l'avenir de ses disciples, l'avenir des âmes croyantes quand nous serons auprès de lui. Je vais même pas vous dire ce qu'il prie pour lui-même, parce qu'au début, il prie quand même quelque chose pour lui-même. Je dirais peut-être juste ceci. Je promets de ne pas le dire, je vais le dire alors, mais courtement. Écoutez ceci. Père, l'heure est venue. Quelle heure? L'heure de la croix. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute terre, c'est-à-dire toute l'humanité, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous allez dire, mais il n'est pas encore mort. C'est la chose principale. Il devait venir pour mourir, pour nous tester. Oui, mais Jésus est en train de projeter un peu en avant. Il dit, je suis à la fin, je vais mourir. Il n'a aucun doute maintenant. J'accomplis. Et il dit, et maintenant, toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Chers amis, qui peut parler comme ça? Est-ce que simple homme pourrait dire à Dieu, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe? Jésus n'est pas un simple gourou ou enseignant religieux. Nous sommes dans une catégorie complètement différente. Nous avons devant nous quelqu'un qui prie au Père et parle de sa gloire éternelle et divine. Le Fils est Dieu, autant que le Père. Et il parle de son existence avant que rien d'autre n'existe. C'est formidable. Ça change tout. Maintenant, si vous avez compris, Jésus donne d'abord une base, un argument et une requête pour lui-même. La requête, c'est « Redonne-moi la gloire que j'avais avec toi au début. » Parce qu'en devenant un, Jésus n'est pas devenu moins que Dieu, c'est impossible. Dieu ne peut pas devenir quelque chose qui n'est pas Dieu. Mais Jésus a pris le rang d'un serviteur, il a pris sur l'humanité, il a cassé sa gloire divine. Il a apparu comme un homme souffrant et humble, habitué à la souffrance, alors qu'il est le Créateur, égal du Père. C'est comme si un grand patron d'une société internationale met le blouse d'un employé et passe un an dans une des usines sans qu'on sache que c'est le patron, n'est-ce pas? Il est toujours le patron, mais il a pris le rang d'un employé. Et plus tard, peut-être qu'il va reprendre son statut de patron. C'est un peu ça que Jésus dit. Il dit, donne-moi la gloire. Je ne vais plus être l'homme humilié qui peut être crucifié par les hommes. Je vais être le roi des rois au ciel avec toi. Mais j'ai un argument pour que tu me répondes. J'ai accompli ce que tu m'as donné à faire. Ok? Ça veut dire que sa requête, il demande la résurrection. Je vais mourir, mais ne me laisse pas là. Ressuscite-moi avec ta gloire divine, comme tu me l'avais promis en m'envoyant. Ça va? Tout le reste de cette prière est aussi basé sur le fait qu'il a accompli ce que le Père lui a demandé de faire. C'est important pour nous, parce que tout ce que Dieu peut faire pour vous, dans le salut, le pardon, en vous amenant, en vous ramenant à lui-même, en faisant de vous un chrétien, et vous donnant un jour le salut éternel, tout cela dépend du fait que Jésus peut dire « J'ai accompli ce que tu m'as donné à faire. » Jésus peut demander beaucoup de choses pour vous dans cette prière parce qu'il a souffert sur le calvaire et il a tout accompli. Ok ? Il y a peut-être des gens qui pensent que la bénédiction de Dieu, ce qu'il peut faire pour vous, ça vient de vous. Si je suis assez bon, Dieu va me donner. Non ! Personne n'est assez bon, on n'arrête pas. Nous sommes coupables, nous n'avons pas cherché Dieu comme il fallait, nous n'avons même pas cherché à savoir s'il avait un plan pour nous. Nous avons voulu être notre propre Dieu, faire nos propres règles de vie, chercher nos propres priorités, et nous avons péché contre le Créateur. Donc, s'il va nous bénir, nous aimer et nous amener auprès de lui, c'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce qu'il est bon, il est plein d'amour, et il a envoyé Jésus pour s'occuper de notre culpabilité et notre péché. Ok, je continue. Maintenant, nous allons regarder les deux requêtes de ce matin, mais il faut qu'on sache pour qui Jésus prie quand il commence à prier pour les âmes. Est-ce que vous avez remarqué? Regardez le verset 6. Verset 6. Jésus dit ceci, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti auprès de toi et qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. » Regardez bien le verset 9. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Un verset de plus, c'est le verset 20, qui dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus prie pour tous les vrais croyants actuels de son époque, ceux qui sont devant lui et ailleurs, et pour tous ceux qui croiront dans l'avenir, dans les siècles à venir. Nous sommes devant un grand mystère, Ce mystère, c'est que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dans le monde pour sauver un peuple précis. Ce peuple précis, la Bible le décrit en disant que il y a certaines personnes qui sont au Père depuis toute éternité. Le Père leur a donné au Fils. Et le Fils dit, c'est pour eux que je suis en train de faire mon œuvre. C'est pour eux que je prie, pas pour les autres. Et c'est pour eux que je vais mourir. En même temps, la Bible nous dit, l'Évangile, la bonne nouvelle, va vers tout le monde et dit, venez à Jésus-Christ et vous serez sauvés. C'est universel, ça. Alors que ce que je viens de vous dire, c'est pas universel, c'est particulier, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? On ne peut pas. Il y a certaines choses que Dieu fait dans sa transcendance, nous sommes trop petits pour comprendre. Mais je peux vous aider peut-être un tout petit peu. Imaginons que ça c'est la porte au paradis. D'accord? Ici, nous sommes dans ce monde, à l'autre côté, nous sommes dans le paradis auprès de Dieu. Ok? Quand je regarde de ce côté, je suis encore dans le monde, je vois ici un verset biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je dis, merveilleux, quiconque, ça m'inclut. N'est-ce pas? Alors, j'accepte, je réponds, je dis oui, je dis je suis à toi, Jésus-Christ. Si tu es Dieu et tu es mort pour moi alors que je ne t'aimais pas, je me repens et je viens à toi. Et j'entre dans la vie éternelle. Je meurs un jour, je passe la porte. Ok? Je regarde l'autre côté de la porte et je vois un autre verset biblique qui dit « Élu avant la fondation du monde. » J'ai été élu, choisi par Dieu avant la fondation du monde. Je ne le savais pas. Bien sûr que je ne le savais pas. Maintenant tu le sais. Mais tu le sais simplement une fois. Que tu réponds, c'est que tu rentres dedans. Cette élection n'exclut personne. Quand Dieu choisit, c'est parce que laissé à nous-mêmes, personne ne viendra à lui. C'est ça le problème. Laissé à nous-mêmes, si Dieu ne fait rien de spécial, personne ne viendra à lui. Mais dans son amour et sa grâce souveraine, Dieu attire des gens à lui, des gens qu'il a pris comme les saints qu'il a choisis avant que le monde ne fût. Qu'est-ce que cela vous fait? J'imagine que quelque part, vous avez l'impression que vous êtes devant quelque chose de plus grand que vous-même est un peu effrayant. C'est exact. Nous sommes devant Dieu. Il n'est pas dans notre poche. Nous sommes à sa merci. Mais, rappelons-nous que la Bible dit que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Et donc, Dieu ne repousse personne, il supplie à tous de venir. Et une fois que vous venez, vous ne pouvez pas dire « Je suis devenu chrétien parce que j'étais meilleur que mon voisin. Moralement, j'étais plus sensible. J'étais moins chrétien. » Je ne peux pas dire ça. Parce que ce n'est pas quelque chose en moi. N'est-ce pas? Dieu m'a fait grâce. Alors que j'étais peut-être pire que l'autre. Donc ça enlève toute l'auréole de moi lorsque je comprends que même ma foi en Christ est quelque chose que je n'aurais pas eu si Dieu n'avait pas fait quelque chose pour moi. Bien. Deux requêtes. Jésus, et si cette partie que je viens de déclarer vous trouble, priez à Dieu, parlez avec moi, revenez sur le passage, revenez sur tous les évangiles de Jean, parce que Jésus parle beaucoup de ce mystère, et n'essayez pas de tout comprendre. Première requête. Nous lisons dans les versets 6 et suivants, 6 à 11 je crois, cette première requête, Jésus dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole, maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, je leur ai donné tes paroles. Ils auront reçu ces paroles, etc. Et là, c'est là, c'est pour eux que je crie. Et il dit au verset 11 ceci, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Garde-les en ton nom. » Qu'est-ce que ça veut dire, « Garde-les en ton nom » Jésus continue dans le verset 12 pour dire « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition. » Mais maintenant, je m'en vais. Alors, pour comprendre cette requête, d'abord il faut comprendre que le départ de Jésus va enlever quelque chose aux croyants. Il dit, tant que j'étais là, moi je l'ai gardé en ton nom. Mais je m'en vais et maintenant il faut que toi, tu le gardes dans ton nom. Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Vous avez nommé vos enfants. Et aujourd'hui, en France, en Occident, le nom c'est simplement une étiquette. J'imagine que certains de vous ne savent même pas le sens du nom que vous avez donné à vos enfants. J'ai dû passer bien 30 ans avant de me renseigner sur ce que veut dire David, mon nom. Je ne savais pas. Ça veut dire aimé de Dieu. Mais nous, en Occident, quand on donne un nom, ce n'est pas à cause du sens, c'est parce que ça sonne joli, c'est ça. Mais dans la Bible, le nom est très important. Le sens du nom révèle le caractère de la personne. Par exemple, à un moment donné, Jésus choisit un disciple donc il s'appelle Simon. Et Jésus dit, tu seras appelé Pierre désormais. Il change son nom. Pourquoi? Parce que ça va refléter le caractère que cet homme aura en tant que croyant. Il sera un roc. Et il faut que le nom nous révèle quelque chose du bonhomme. D'accord? Donc c'est un peu cela le sens de ce que Jésus veut dire. En disant, garde-les en ton nom. Jusqu'ici, je l'ai gardé en ton nom. Il veut dire ceci, verset 6 nous explique, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire? En devenant homme, les hommes ont pu voir le nom de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, comment il est, parce qu'ils l'ont vu en Jésus. Jésus était Dieu incarné, Dieu en chair et os. Et tant que j'étais là, mes disciples ont pu comprendre tous les jours comment est Dieu. Ils ont vu mon identité, l'identité de Dieu, mon nom en quelque sorte, parce que j'étais là avec eux. La manière dont je les aimais, la manière dont je guérissais les malades, la manière dont je pleurais sur Lazare lorsqu'il était dans le tombeau, la manière dont je soutenais la droiture et j'allais contre l'hypocrisie. Tout cela, ils voyaient comment tu es? Parce que vous n'avez jamais vu Dieu, vous, je pense. Non? Vous n'avez jamais vu Dieu. Mais on a vu un homme qui était Dieu incarné. Donc Jésus dit, en quelque sorte, je t'ai révélé aux hommes pendant que j'étais là, mais je m'en vais. Et il ne faut pas qu'ils oublient comment tu es, qui tu es, parce que nous sommes tellement oublieux. Nous perdons de vue l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu, sa sainteté. Nous nous faisons des images de Dieu qui viennent de nos propres têtes, et ce n'est pas le vrai Dieu. Comment est-ce qu'on va se garder dans la bonne connaissance de Dieu, dans la vraie connaissance de Dieu? Alors Jésus prie. Quand je m'en vais, ils n'auront plus devant eux, garde-les en ton nom. C'est-à-dire, continue à leur manifester qui tu es. D'accord? Qu'est-ce que cela nous apprend? Et juste pour vous montrer l'importance de ça, regardez le dernier verset de la prière. Père, juste le monde ne t'a pas, je lis verset 25 plutôt, Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, voilà, il revient là-dessus, et je leur ferai connaître, afin que ton amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Chers amis, si Dieu ne fait pas quelque chose dans ta vie, le Dieu qui est là, s'il n'y a pas un travail surnaturel de la part de Dieu dans ta pensée et dans ton cœur, pour que tu comprennes qui est le vrai Dieu, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais comment il est. Tu auras des idées peut-être, mais tout sera... C'est ça notre péché. Notre esprit est affecté et laissé à nous-mêmes. Nous ne voyons pas qui est Dieu. Nous pensons qu'il est un législateur, c'est ça, ou quelqu'un à fuir, ou quelqu'un sans bonté, ou bien qu'il est le bon Dieu. Quel disons, on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave. Nous allons aux extrêmes, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de ça, il est loin, loin, loin. Donc, Jésus prie pour nous et dit, Père, garde-les en ton nom. C'est-à-dire en cette connaissance vraiment de qui tu es. Toute ta vie chrétienne, si tu es chrétien, dépend de cela. Il y a une œuvre qui continue tous les jours. Le Père vient auprès de toi invisiblement. Tu ne sais pas toujours, mais par la Bible, par le culte, par d'autres moyens, surtout par la vérité, il t'illumine, il t'éclaire. Comprends quelque chose au sujet de Dieu que tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que Jésus a prié le soir avant sa mort. Et il a dit, Père, garde-le dans cette vraie connaissance de moi. Toute ta croissance spirituelle vient du fait que tu vois mieux qui est Dieu. Plus tu vois qu'il est, plus tu aspires. Plus tu es émerveillé. Plus tu grandis spirituellement. Et tout cela, c'est parce qu'il y a une œuvre de Dieu lui-même en toi, parce que Jésus a prié pour toi. Deuxième requête. Nous allons un peu plus loin dans le passage, et Jésus dit, excusez-moi, je retrouve cette partie. Oui, on va prendre au verset 13. Et maintenant, je vais à toi, je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. C'est vraiment à partir du verset 14 que nous voyons cette nouvelle requête venir. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas que je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Et puis un peu plus loin, deux versets plus loin, sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai renvoyés dans le monde. Maintenant, quel est ce secret? Jésus nous a donné, chers amis, si vous êtes croyants, et si vous allez devenir croyants un jour, ce sera vrai de vous, il nous a donné sa parole. C'est-à-dire, il nous a expliqué la vérité sur les choses ultimes. Il y a un Dieu, nous savons quel Dieu il est. C'est pas n'importe quel Dieu. Nous savons ce qu'il a fait, nous savons comment revenir à lui, parce que il nous a dit que c'est par Jésus-Christ et par la mort qu'il a souffert à notre place. Nous savons comment vivre. Il nous a donné des commandements moraux. Nous savons que nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas voler, nous ne devons pas être infidèle à notre épouse ou notre époux. Nous savons que dans le mariage, il y a une certaine manière de vivre avec un amour, une certaine manière d'élever les enfants. Tout cela est dans la Bible. Et bien plus. Maintenant, il nous a donné cette parole. À cause de cette manière de vivre, cette manière de croire, ce que nous croyons et ce que nous vivons, il y a beaucoup de gens qui nous détestent. On ne peut rien faire. Bon, il y a des chrétiens qui se font détester parce qu'ils sont détestables. Mais ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas de vrais chrétiens aussi. C'est des hypocrites. La Bible parle de cela aussi. Mais je parle de vrais gens saisis par le Christ qui sont devenus humbles parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils font de bonnes œuvres. Ils sont chrétiens parce qu'ils sont des pécheurs que Christ est venu racheter. Ça, c'est différent. Maintenant, on a ce problème. Le Christ a dit dans ce passage qu'il nous a envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Il dit qu'il y a un problème avec le monde, mais il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Nous avons donc cette relation avec le monde, c'est-à-dire le monde non-croyant, qui est très important à naviguer sur la nuit. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être dans le monde. Jésus dit, je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde. N'allez pas faire une secte quelque part dans une forêt où vous êtes confiné à vous-même. Ça, c'est sectaire, c'est non biblique. Nous devons être en plein engagement avec le monde. Si vous êtes chrétien, vous devez être le meilleur voisin possible. Le meilleur employé possible. Complètement impliqué dans les activités de la ville, dans les activités culturelles, dans les activités sportives, dans les activités intellectuelles. Vous ne pouvez pas ôter d'un domaine quelconque du monde. Vous êtes en plein dedans. Mais c'est ça le problème. Quand on est tellement proche aux gens, on a envie d'être pas nous. C'est ça? Allez! On va faire ça ce soir! Ta femme n'est pas là! Allez! C'est ça? On va tous! Tu peux pas être le seul, monsieur chrétien, à ne pas aller au disco avec nous ce soir. On est loin de la maison. C'est ça? Et on a envie d'être comme les autres. Mais on n'est pas comme les autres. Jésus dit, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Moi, je suis devenu différent. Je peux aller boire un coup, mais un coup, pas 10 coups. Ça changeait. Je buvais 10 coups avant. J'étais là. C'est ce que je faisais. Mais cette partie est partie. Et donc, il y a eu un changement. Et le problème, c'est que le malin, garde-les du malin, il pense diable. Oui, il y a un monde spirituel, surnaturel. Il y a des êtres, des anges, des cieux, qui peuvent influencer des hommes. Nous ne comprenons pas tout cela, mais cela existe.
Jésus en Afrique des personnes possédées par des démons. Jésus dans le monde surnaturel. Jésus, une femme, parlait avec la voix d'un homme qui n'était pas sa voix. Elle m'a dit ce nom, son nom, cette voix. Et ce n'était pas le nom de la femme. En tout cas, il y a un monde spirituel réel. Et Jésus dit, garde-les du malin. Parce que le malin veut que vous, les chrétiens, vous redeveniez une partie du monde, dans le mauvais sens. Que vous laissiez les priorités de Christ, les valeurs de Christ, les réalités que Christ a révélées, et que tu vis pour l'argent, ou pour le plaisir sexuel, ou pour la puissance, ou pour la popularité, ou pour ça, mais seulement des choses d'ici-bas. Que votre vie soit juste cette vie et que vous niez complètement l'éternité. Le malin veut faire ça. Il veut que vous fondiez dans le monde. Et Jésus prie. Et il prie, garde-les du malin. Et le Père fait un travail surnaturel en vous, parce que Jésus a prié, afin que vous puissiez être dans le monde, mais pas du monde. Envoyé dans le monde comme un témoin de Christ, comme une lumière, pour montrer qu'il y a autre chose, réveillez-vous, les amis. Sachez qu'il y a un Dieu qui vous a fait pour lui-même, revenez à lui. Vous pouvez avoir ce rôle. Vous êtes dans le monde, envoyé même dans le monde, mais pas du monde. Et pour cela, Jésus dit dans le verset 17, il faut qu'on soit sanctifié par la vérité. Sanctifiez-les par la vérité, ta parole est vérité. Pourquoi est-ce que je lis ça? Parce que pour être gardé du monde, le mot sanctifié signifie en grec tout simplement séparer. Donc c'est la même idée. Séparez-les dans leur priorité, dans leur manière d'être, par la vérité, ta parole est vérité. Et donc c'est la vérité, c'est pas des rites qui nous sanctifient, qui nous transforment, qui nous changent. C'est pas des expériences émotionnelles farfelues. C'est la vérité. C'est ce qui est vrai que nous ne savions pas parce que c'est invisible et Dieu nous l'a dit. On a entendu les paroles du Christ qui nous a parlé du Dieu invisible et du monde invisible. Nous l'avons cru, chers amis. Nous l'avons cru. Nous savons que c'est vrai et cela nous change. C'est ça qui nous sanctifie et qui nous garde du malin. Mais si vous vous éloignez de la parole, de la Bible, le malin vous aura comme une prophétie. Je m'arrête là. Nous allons voir les deux autres requêtes la semaine prochaine. Mais rappelez-vous que Jésus a prié et que par une action surnaturelle et pleine d'amour, parce que c'est une histoire d'amour tout ça, que Dieu vous aime, il vous veut, et Jésus prie au Père, j'aimerais bien avoir entendu le ton de la voix, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Au Père, gardez en ton nom, qu'il sache ton identité, toujours, toujours mieux. Et garde-les du malin, qu'ils soient dans le monde, comme moi, comme Jésus a vécu dans le monde sans être du monde. Il n'était pas comme les autres Jésus. Qu'ils soient comme ça. Mais garde-les, œuvre. Et ça, c'est le travail de Dieu dans notre vie en réponse à la prière de Jésus. On verra le reste la fois prochaine. Mais nous allons nous arrêter là. Je vais faire une chose
très différente. Je vais laisser la place pour une question, si vous en avez une. Et puis, on va appeler les enfants à venir, on va faire la scène. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ce matin? Vous demandez.
Au sujet du passage, ah, si vous ouvrez, si vous ouvrez, vous pouvez voir le sujet.
Ouais. Ok. Bien. Bien, nous allons demander à Anne de revenir avec les enfants, et je vais vous expliquer comment nous ferons pour la scène.